rcph.com.
Mardi 27 mai, bienvenue, il est 7h.
RTS Info, la matinale.
Excellent début de journée à vous. À la une ce matin, Lausanne, Vevey, Yverdon, les villes romandes ont-elles perdu le contrôle des drogues? Cocaïne, crack, marijuana, le deal s'étend malgré la répression. Les acteurs de ce sujet sensible se sont tous réunis hier soir. Le directeur d'Addiction Suisse y était. Franck Zobel est l'invité de cette matinale. Bonjour Audrey Mondy.
Bonjour.
Les autres titres.
C'est le retour des tracteurs devant l'Assemblée nationale. Les syndicats agricoles français se lancent dans de nouvelles manifestations pour soutenir une loi décriée par les écologistes. L'amour des Suisses pour les grosses voitures. Les SUV sont en tête des nouvelles immatriculations dans le pays. Les modèles électriques en particulier boostent les ventes. Des crevettes ou des paillettes, il faut choisir. Lorsqu'ils finissent au fond de l'eau, ces petits bouts de plastique brillants sont un vrai fléau qui menace la vie des coraux et crustacés.
Les parents en guerre contre la justice. Le phénomène monte sur les réseaux sociaux. Pétitions, appels aux politiques, cagnottes. Fâchés d'une décision de justice sur leur droit de garde ou de visite, de plus en plus de parents agitent la sphère publique et médiatique. Ce n'est pas sans conséquence, en premier lieu sur les enfants. Explication 7h20.
Comment mieux lutter contre le deal de rue et la consommation de drogue dans l'espace public? Depuis plusieurs mois, la question inquiète des villes vaudoises qui appellent à l'aide et dénoncent une situation hors de contrôle. Hier soir, la ville d'Yverdon a réuni des représentants du canton, de la police et de plusieurs communes pour un échange public et la recherche de solutions concrètes. Mais une actualité est venue bouleverser la tenue de cette rencontre. Hier, le ministère public vaudois a annoncé la mort d'un homme dans les locaux de la police lausannoise après une arrestation pour soupçon de trafic de drogue. Thibaut Clément, ce drame a éclipsé les réflexions autour du volet répressif.
Comment aborder le deal de rue après ce décès tragique? C'est par cette question que Vassilis Venizelos, conseiller d'État vaudois en charge de la sécurité, a ouvert la table ronde hier soir qui avait pour objectif d'évoquer les pistes pour lutter contre la consommation de drogue en hausse dans le canton de Vaud. Dans ce contexte, aucune annonce concrète n'a été formulée. Pas de remise en question non plus de la stratégie dite des quatre piliers qui allie interpellation, prévention, accompagnement et thérapie. Même si le constat est partagé, il faut renforcer tous les piliers, notamment la prévention. Mais pas un mot hier sur le renforcement de la répression. Pour Vassilis Venizelos, une répression excessive aurait pour effet de déplacer le deal de la rue aux appartements.
Il est vrai que la plupart des questions ont plutôt porté sur la prévention et sur les soutiens socio-sanitaires. Je crois que tout le monde a conscience que s'il est nécessaire d'avoir une répression sur l'espace public pour apaiser l'espace public, on ne va pas pouvoir remplir les prisons, construire des prisons à l'infini. On a exploré plein de pistes. Ce modèle prohibitif, on l'utilise depuis des décennies maintenant. On constate que ça ne fonctionne pas. Donc il faut innover, il faut trouver d'autres choses.
Le conseiller d'État vaudois en a profité hier pour tirer un premier bilan positif de la task force contre le deal de rue mise en place à l'automne dernier, avec plus de places de prison et une meilleure collaboration entre les travailleurs sociaux et la police. Les projets à Zurich de vente contrôlée de cannabis ont été plusieurs fois cités en exemple, mais le conseiller d'État l'a rappelé hier, s'il faut repenser la régulation, il est hors de question de parler de légalisation.
La police valaisanne, elle, avance dans son enquête après la mort de 5 personnes samedi sur le glacier d'Alder près de Zermatt. 3 victimes ont pu être identifiées. Il s'agit de 2 hommes de 35 et 38 ans ainsi qu'une femme de 34 ans, tous ressortissants suisses. Selon les premières investigations, le groupe envisageait de gravir le Rimfischhorn. Ils ont déposé leur ski pour poursuivre à pied en direction du sommet et auraient été emportés par une avalanche.
À Genève, la Sloca s'inquiète d'une nouvelle pratique de résiliation de bail.
Selon l'association des locataires, des propriétaires prétexteraient des travaux à faire pour demander le départ des habitants et ensuite augmenter le loyer de ces logements. Parmi les personnes touchées, Carole Anne Deschoux vit depuis 25 ans dans son appartement avec son mari et ses 2 enfants. Elle est tombée des nues en recevant le courrier de résiliation de bail.
En fait, on ne voyait pas trop quels travaux allaient devoir être nécessaires. Et puis après, effectivement, en se renseignant, il fallait changer la salle de bain, il fallait changer la cuisine, et puis tout ce qui était électricité. On était prêts à augmenter de 500 à 600 francs par mois. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, en fait, je me suis rendu compte qu'on attendait que la négociation parte à 3500 francs. Et là, j'ai vraiment pas compris parce que c'était environ 80-90% de plus. En fait, là, pour l'instant, j'ai accusé le coup. C'est pas facile de trouver un appartement dans le quartier dans lequel on aimerait rester. Donc pour l'instant, j'en suis au début. Là, je suis en train de me rendre compte que c'est la jungle, en fait.
Des propos recueillis par Anouk Pernet, la Chambre Genevoise Immobilière dit ne pas avoir connaissance de tels cas de résiliation. Elle estime que la loi genevoise est la plus restrictive de Suisse, ce qui ne permettrait pas à les hausses de loyers dénoncées. Premier pont entre les deux côtés de la Sarine sur le dossier électronique du patient. L'association CARA, en charge du projet dans la plupart des cantons romands, va s'allier à deux partenaires alémaniques dès l'année prochaine. L'objectif est notamment de centraliser l'infrastructure technique. Mais le chemin vers un minimum d'harmonisation nationale est encore long, Julien Bangerter.
Pour réunir vos informations médicales sur un dossier électronique, le Parlement a voulu un système de concurrence. Résultat, la Suisse compte aujourd'hui 7 prestataires différents qui peinent grandement à se coordonner. Dans les cantons romands, sauf Neuchâtel, c'est l'association CARA qui gère le projet. En s'associant à deux entités alémaniques, elle espère créer une nouvelle dynamique autour de la plateforme informatique de Bint, une entreprise zurichoise. Dès février prochain, CARA va donc tourner le dos au système de la Poste, qui reste l'interface privilégiée dans la plupart des autres canton. Face à ce développement chaotique, le Conseil fédéral souhaite créer un semblant d'unité, au moins au niveau technique, avec une seule plateforme nationale. Le Parlement devrait se prononcer début 2026, avant une probable mise au concours. À voir si un peu plus d'harmonie rendrait le projet plus attractif. Actuellement, seuls 110 000 patients ont ouvert un dossier électronique, soit à peine plus d'1% de la population. Et les résistances restent nombreuses entre des médecins qui jugent le système trop complexe et des patients soucieux de protéger leurs données.
Nouvelle poussée de fièvre dans les campagnes françaises.
Les agriculteurs ont repris leur manifestation hier matin pour soutenir une loi controversée débattue à l'Assemblée nationale. Ce texte promet de simplifier leur quotidien, mais chez les écologistes, il provoque une levée de boucliers. Notre correspondant à Paris, Benjamin Louis.
Un convoi de tracteurs devant l'Assemblée nationale, des opérations escargots. Depuis hier, les syndicats agricoles français sont mobilisés pour défendre la loi Duplon. Ce texte porté par un sénateur agriculteur entend lever les contraintes qui pèsent sur la profession en assouplissant certaines règles environnementales. Parmi les mesures les plus contestées, il y a la réintroduction temporaire de l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Ces produits sont redoutés pour leur effet sur les abeilles. Ils les désorientent, affaiblissent les colonies et menacent la pollinisation. Interdit en France depuis 2018, l'acétamipride reste autorisé ailleurs dans l'Union européenne. Alors les filières de la noisette et de la betterave française le réclament, faute d'alternative. Mais les écologistes, eux, parlent d'un véritable tueur d'abeilles. Face aux 3500 amendements déposés par la gauche au Parlement, la majorité a choisi d'écourter le débat dans l'hémicycle. Hier soir, une motion de rejet a été adoptée avec l'appui du RN, une façon de court-circuiter les discussions en séance et de renvoyer directement le texte en commission mixte paritaire, une manœuvre qualifiée de 49-3 déguisée par les opposants. Prochaine étape à huis clos donc, entre députés et sénateurs. Benjamin Luis, RTS, Paris.
À Liverpool, au Royaume-Uni, une voiture bélier a fait 27 blessés hier soir. Elle a foncé sur une foule qui célébrait la victoire du club de football de Liverpool en Premier League. La police a interpellé le conducteur, un Britannique de 53 ans, originaire de la région. Elle indique qu'il s'agit d'un incident isolé qui n'est pas traité comme du terrorisme. C'est le nouveau défi des autorités turques, lutter contre la chute drastique du taux de natalité dans le pays. Un taux qui atteint désormais 1,51 enfants par femme, alors que pour atteindre le renouvellement des générations, il devrait être de 2,05. En janvier, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait baptisé 2025 l'année de la famille. Face à des statistiques qui continuent de chuter, il déclare désormais une mobilisation des autorités pour une décennie de la famille. Notre correspondante à Istanbul, Céline Pierre-Magnani.
1,48. C'est une chute spectaculaire du taux de natalité qu'enregistre la Turquie ces dernières années. Après avoir annoncé une série de mesures d'incitation à la procréation en janvier, le président Recep Tayyip Erdogan est revenu à la charge vendredi 23 mai.
C'est un désastre. Nous mettons en œuvre des politiques très importantes qui encourageront le mariage et la procréation, conformément à notre appel à avoir au moins 3 enfants.
Et quand il aborde les causes probables du phénomène, il accuse une nouvelle fois le mouvement LGBT+, d'être responsable.
Nous ne tolérerons aucune idéologie qui déclare la guerre à la famille et aucune tyrannie qui nie la nature des êtres humains.
Le président Erdogan a enfin balayé l'argument économique d'un revers de main et a affirmé que la perte du pouvoir d'achat des Turcs n'avait aucun impact sur la chute de la natalité dans son pays. Céline Pierre-Magnani, RTS Info, Istanbul.
Les principaux alliés occidentaux de l'Ukraine lèvent leurs restrictions sur la portée des armes fournies à Kiev. Le chancelier allemand l'a affirmé hier. Friedrich Merz souligne que l'armée ukrainienne peut désormais se défendre et attaquer des positions militaires en Russie. Il ne précise pas en revanche si cela aura un impact sur les futures livraisons d'armes.
Ce constat ce matin, les Suisses aiment les grosses voitures.
L'année dernière, plus de la moitié des nouvelles immatriculations portaient sur des SUV, ces véhicules utilitaires sportifs plus hauts, plus grands et souvent à quatre roues motrices. Katia Scher, c'est la conclusion d'un rapport publié ce matin par le comparateur en ligne Comparis.
Oui, presque 56% des nouvelles immatriculations sont des SUV en Suisse, avec en tête les modèles de BMW, Audi et Skoda. Alors pour les experts de Comparis, ce goût pour les gros véhicules s'explique par le sentiment subjectif de sécurité et de confort que peuvent donner ces véhicules plus hauts, souvent plus grands et plus lourds que les autres, et le fait que la plupart des constructeurs proposent des modèles électriques, eh bien soutient encore cette tendance, parce que c'est bien de tendance qu'il s'agit, pas seulement en Suisse, même si nous sommes parmi les plus gros acheteurs, partout dans le monde, les SUV ont la cote. Sauf que, les experts de Comparis le rappellent, cet amour pour ces véhicules est problématique. Ils prennent plus d'espace, présentent plus de risques de blessures, d'abord pour les autres usagers de la route, et sollicitent plus lourdement les infrastructures. Et que ceux qui pensent qu'un SUV électrique est plus propre se détrompent, ils consomment en réalité tellement de ressources à la fabrication qu'il faut plusieurs années d'utilisation pour qu'ils soient, dans les faits, plus écologiques qu'une voiture à moteur thermique.
Merci Katia Scher. Et les ventes de Tesla, elles ont baissé de plus de 50% en avril au sein de l'Union européenne, selon les chiffres des constructeurs publiés ce matin. En parallèle, celles des marques chinoises progressent. Denner ambitionne d'ouvrir 120 magasins supplémentaires d'ici 5 ans en Suisse. La chaîne de magasins l'a confié hier au Blick. Au total, cela représenterait la création de 1000 nouveaux emplois et la gestion au total de 1000 succursales. Mais Cléa Favre, ne commence-t-il pas à y avoir un embouteillage sur le créneau des petits prix ?
Remplir son caddie pour pas cher, c'est l'argument de quasiment toutes les enseignes pour vous convaincre de venir chez elles plutôt qu'ailleurs. Même Migros, la maison mère de Denner, communique massivement sur les petits prix, quitte à empiéter sur les plates-bandes de son fils rouge et blanc. Coop s'aligne, sans parler de Lidl et Aldi. Dans ce contexte, y a-t-il encore de la place pour 120 Denner de plus ? Oui, affirme Dominique Lochère, entrepreneur et spécialiste du commerce de détail.
Cette opportunité est renforcée par plutôt une tendance de fond, le consommateur se détourne plutôt des grands supermarchés au profit des petits formats, des magasins de proximité qui sont plus accessibles et qui sont plus ancrés dans leur quotidien.
Historiquement, Denner est plutôt connu pour l'alcool et le tabac, mais l'enseigne cherche à changer son image. Elle mise de plus en plus sur les produits frais, pains, fruits et légumes. Au final, les différentes enseignes se ressemblent de plus en plus, avec une identité de plus en plus floue.
En tennis, Stan Wawrinka n'a pas passé le cap hier du premier tour à Roland-Garros. Le Vaudois a perdu en 3-7 contre le Britannique Jacob Fernley et n'aura donc pas fêté comme il l'espérait les 10 ans de son titre parisien. Stan Wawrinka en sait-il plus sur la suite de sa carrière ou sur une éventuelle retraite ? Écoutez sa réponse à l'issue du match.
Une carrière, une retraite, c'est très personnel. C'est un ressenti. On va dire que j'ai aucune garantie que je reviens l'année prochaine ici. Ça, c'est la réalité. S'il n'y a pas des victoires qui suivent, s'il n'y a pas un peu des résultats qui me refont un peu monter au classement, c'est sûr que de toute façon, même si je pense pas l'avoir, je reviendrai pas en demandant une wildcard ou autre chose. Donc là, ça donne déjà quelques réponses. Mais pour les prochaines semaines, je sais pas. Là, voilà, c'était la saison de terre battue qui finit la première après Roland-Garros. En tout cas, je suis très satisfait esthétiquement et physiquement de ce que j'arrive encore à faire. Maintenant, comme je le disais, il faut avoir aussi un peu de retour, il faut avoir un peu de victoire, il faut avoir de la satisfaction aussi dans le résultat. Parce qu'à la fin, je suis un compétiteur et malgré le plaisir et la passion, je joue aussi pour gagner. La balance, elle penche depuis le début d'année un peu trop d'un côté. Je suis encore convaincu que je suis capable de faire des choses, mais j'ai pas encore trouvé la clé.
Des propos recueillis par Bernardin Lehmann. Les paillettes, grandes ennemies des coraux et des crustacés. Sur Terre, on les aime parce qu'elles brillent et agrémentent nos décorations, maquillage ou encore projets artistiques. Mais dans l'eau, ces petits bouts de plastique sont loin d'être inoffensifs. Zoé Decker, une récente étude révèle leur tendance à aggraver la pollution marine et perturber la vie sous-marine.
Elles n'ont l'air de rien et pourtant, les paillettes en plastique agissent comme des accélérateurs chimiques dans l'océan. Une récente étude menée par le Trinity College de Dublin révèle même qu'elles favorisent la formation de cristaux, de carbonate de calcium, un composant essentiel des coquilles et des squelettes marins. Sous l'eau, les paillettes attirent les ions, déclenchent la cristallisation du carbonate de calcium et se fissurent. Le résultat, c'est que les paillettes relâchent encore plus de microplastiques, un cercle vicieux invisible à l'œil nu, mais bien réel. À terme, cette réaction pourrait perturber la calcification des coraux, des moules, des oursins et même du plancton. Un véritable fléau, explique Kako Naitali, docteur en chimie des matériaux micro de TF1.
Le microplastique qui est envoyé dans l'environnement via les cosmétiques, on ne le voit pas. Il est invisible, on ne peut pas le récupérer, on ne peut pas dépolluer en fait. Donc il y a un danger potentiel et il faut absolument réduire ce risque-là en réduisant les quantités de microplastiques qu'on va envoyer dans l'environnement.
Chaque année, près de 4000 tonnes de paillettes sont rejetées dans l'environnement en Europe. Alors pour limiter les dégâts, l'Union européenne a lancé une interdiction progressive. Depuis 2023, les paillettes en vrac sont interdites à la vente. L'année prochaine, ce sera autour des gels douches. Puis pour les rouges à lèvres, les vernis à ongles, l'échéance est fixée à 2035. Alors certaines marques proposent déjà des alternatives dites biodégradables à base de cellulose végétale, de mica ou de verre. Mais selon plusieurs études, ces versions ne sont pas totalement inoffensives. Elles peuvent nuire aux algues, perturber les plantes aquatiques et mettre longtemps à disparaître. Chaque année, plus de 2,7 millions de tonnes de microplastiques sont relâchées dans la nature. Et selon l'OCDE, un adulte ingère ou inhale en moyenne 14 000 microparticules de plastique par jour.
Et du fond des mers, on termine ce journal au sommet de l'Everest. Un alpiniste népalais, Kamirita Sherpa, a battu hier son propre record d'ascension en atteignant pour la 31e fois le toit du monde. Âgé de 55 ans, il a grandi dans une vallée himalayenne en suivant l'exemple de son père et de son frère, aussi guide de montagne. Aujourd'hui, on le surnomme tout simplement Monsieur Everest.
Merci beaucoup, Madame Audrey Mondier, ce journal de 7h.
7h16, Pietro Budion, Stéphane Delery sont arrivés. Bonjour à vous.
Bonjour.
Mais bonjour.
Pietro, le marché de la drogue empoisonne les villes romandes. Les autorités vaudoises ont tenté d'esquisser des pistes de solutions hier soir lors d'une table ronde. Notre invité y était.
Franck Zobel, responsable de recherche et directeur adjoint d'Addiction Suisse. Il suit de près l'évolution du deal de rue en Suisse depuis près de 30 ans. A-t-on perdu le contrôle des drogues? Faut-il changer radicalement d'approche? On voit ça avec lui tout à l'heure.
La chronique politique, Stéphane, êtes-vous inhibé, Stéphane?
Alors ça, on verra tout à l'heure. Mais oui, on a tous et toutes déjà eu des pulsions inavouables, comme frauder dans le bus ou tuer notre voisin saxophoniste. En général, on ne le fait pas, ça s'appelle, vous l'avez dit, l'inhibition. C'est assez utile en politique aussi.
La matinale, Valérie Awert.
Vous l'avez peut-être remarqué sur les réseaux sociaux, certains parents, mécontents d'une décision de justice sur leur droit de garde ou droit de visite de leur enfant, décident de médiatiser leur combat dans des cas complexes et délicats qui résonnent fortement dans la sphère publique. Bonjour Charlotte Frossard.
Bonjour.
Le phénomène, Charlotte, est lourd de conséquences sur les enfants concernés et particulièrement difficile à endiguer.
Oui, et pour cause, on parle de pétitions, d'appels aux politiques, de création de collectifs, de groupes sur les réseaux sociaux, de manifestations, de cagnottes, mais aussi de médiatisation des décisions de justice et la publication d'informations liées à l'intimité de l'enfant, comme des photos de lui, des dessins, l'adresse de son foyer, de son école, ou même le contenu de ses expertises médicales. Florilège dans cette reconstitution.
Ma fille Julia a aujourd'hui 12 ans et demi. Lui interdire de vivre librement avec sa mère et de partager son quotidien constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Bénédicte a été enlevée sans raison valable à sa mère dès ses premiers jours et vous le savez pertinemment.
Signez cette lettre ouverte pour libérer Louis et Thiago.
712 jours qu'elle a été injustement et brutalement arrachée à sa maman, nous continuerons à nous battre pour faire connaître ce scandale à la population.
Ma fille a été victime d'un traumatisme volontaire, orchestré par la protection de l'enfance, l'État et des collègues de son père.
Nous sommes le collectif Bénédicte. Nous ne t'abandonnerons pas, Bénédicte. Nous ne t'oublierons pas, Bénédicte.
On recense plusieurs cas emblématiques dans les cantons de Vaud et de Genève.
Charlotte, une telle médiatisation n'est pas sans conséquence.
Oui, et les premières victimes, ce sont les enfants. Il y a tout d'abord l'impact de ce qu'on appelle le « sharing », c'est-à-dire le partage par les parents sur les réseaux sociaux d'images de leurs enfants qui constitue une atteinte à leur vie privée, à leur dignité et qui peut les mettre en danger. Récula Bernardu, qui est directrice de l'organisation Protection de l'enfance suisse.
Un enfant a le droit à la protection de sa vie privée. Ça veut dire que le moins d'informations possibles doivent circuler dans l'espace public sur sa vie privée. Les photos des enfants peuvent aussi tomber entre de mauvaises mains. Il y a des personnes sur Internet qui recherchent de manière ciblée des photos d'enfants pour les utiliser ensuite dans un contexte sexualisé.
Selon le service genevois de protection des mineurs, ce genre de médiatisation peut aussi alimenter les conflits de loyauté dans lesquels l'enfant se trouve déjà. Il s'agit même de maltraitance psychologique dans certains cas.
Et pourquoi ces parents agissent de la sorte ?
Nous avons posé la question à plusieurs d'entre eux. Ils estiment que c'est nécessaire pour protéger leur enfant et pour dénoncer l'injustice dont ils estiment être victimes. Selon plusieurs experts du milieu, il s'agit souvent de parents psychiquement fragiles qui ne parviennent pas à reconnaître leur dysfonctionnement. Mais le risque, c'est de voir leur cas instrumentalisé dans un contexte de défiance vis-à-vis des professionnels de la protection des mineurs qui sont souvent victimes de procès d'intention. Écoutez Laetitia Pizzolato, secrétaire syndicale au SSP dans le canton de Vaud, elle est spécialiste de la protection de l'enfance.
On ne peut pas remettre en question la souffrance qui s'exprime dans ces vécus, mais je pense que cette exposition politique, elle va aussi attirer des voix extérieures qui peuvent parfois être bienveillantes, mais souvent quand même idéologiques. On l'a vu hein, dans les réactions, aussi les commentaires que peuvent susciter des articles, c'est particulièrement exemplaire. On voit qu'il y a des récits individuels qui vont être happés par d'autres vécus, par des causes collectives. En tout cas, à mon avis, dans ce vacarme de récits qui sont souvent des récits concurrents, avec des positions très rigides, je pense que s'il y a une voix qui se perd, c'est celle de l'enfant.
Le risque, selon elle, c'est aussi de fracturer davantage le lien familial, sans compter que de telles réactions parentales peuvent être perçues comme un refus de collaborer.
Et donc, comment les éviter ?
Le tribunal de protection de l'enfant peut interdire ces publications problématiques. En cas de récidive, les parents sont poursuivis pénalement. Une mère de famille est d'ailleurs jugée en ce moment à Genève pour de tels griefs. Et puis une autre solution non judiciaire, c'est la médiation, qui peut aussi se faire à titre préventif pour accompagner ces conflits familiaux très aigus. C'est le travail effectué notamment par l'antenne de médiation et de prévention avec des mineurs de l'association Astural. Écoutez sa directrice Véronique Stelly.
Il y a des situations qui nous sont adressées, notamment par le service de protection des mineurs, où on essaye de travailler avec les parents sur le sens de la mesure, d'explorer avec eux finalement qu'est-ce qui inquiète le système ou qu'est-ce qui est attendu par le système, et puis comment ils pourraient y répondre pour sortir du système. On fait un travail de mise en sens pour que les parents ils aient aussi des perspectives et puis une marge de manœuvre.
La médiation pour apaiser des relations entre coparents, c'est parfois simplement obtenir d'eux qu'ils se disent bonjour quand ils se croisent. Une petite victoire, mais qui est significative pour l'enfant qui est au milieu.
Merci à vous, Charlotte Frossard.
RTS Première, la matinale.
Outre phénomène de société, ces millions de dollars échangés maintenant sur des plateformes où on mise sur l'actualité du monde, nomination du nouveau pape, les élections américaines ou encore la guerre à Gaza, on les appelle des marchés prédictifs. C'est cynique, mais c'est la réalité et ça rapporte surtout beaucoup d'argent. Bonjour Miruna Coca-Cosma.
Bonjour Valérie.
Derrière ce phénomène, Miruna, des enjeux technologiques, éthiques et géopolitiques majeurs. Ces plateformes de paris, c'est quoi exactement ?
Eh bien, le futur de Gaza, l'Eurovision, les élections américaines ou roumaines, tout devient matière à spéculation sur Polymarket ou Calcio, mise en crypto-monnaie sur l'actualité mondiale. Polymarket est devenu célèbre pour avoir vu juste sur le résultat des élections américaines, une victoire de Donald Trump face à Kamala Harris. Tout y passe. Exemple choquant, juin 2023, le submersible Titan disparaît avec 5 passagers à bord. Des internautes ont parié 300 000 dollars sur leur sort. Certains ont gagné jusqu'à 8 000 dollars. Le principe, plus un événement paraît probable, plus son prix, ses chances augmentent. Pour Julien Piot, docteur en économie à l'Université de Nice et enseignant-chercheur à l'INSEC Business School, cette situation est le résultat de la numérisation de nos vies.
La puissance de connectivité que donne le numérique et la finesse des observations que le numérique nous donne à voir, puisque nous sommes tous hyper connectés et donc hyper informés, il y a la possibilité aujourd'hui de donner son opinion sur la survenue de certains événements. C'est des plateformes qui s'inscrivent dans la plateformisation aujourd'hui de l'économie. C'est tout à fait dans l'air du temps.
Et Miruna, ces plateformes marchent comment concrètement ?
Alexandre Leca est un informaticien roumain. Avec son équipe, il a analysé les comportements des parieurs sur un de ces marchés prédictifs, Polymarket. lors des élections roumaines de Paris sur les chances des deux candidats de gagner les élections.
C'est une plateforme de trading qui fonctionne selon les mêmes règles que les plateformes de transactions boursières. Vous savez, pour les actions, les obligations, etc. En gros, les prix se forment selon l'offre et la demande.
Ce spécialiste a révélé dans une enquête qu'un investisseur anonyme a dépensé plus de 2,5 millions de dollars pour influencer artificiellement la popularité de George Simion sur Polymarket. Si George Simion a eu droit à des dizaines, des centaines de paris, Nikou Chordan, lui, l'actuel président, n'a eu droit qu'à quelques milliers d'ordres. Alors, manipulation ?
C'est une forme de manipulation où l'on maintient artificiellement la cote d'un candidat en plaçant des dizaines de milliers d'ordres. Il y avait des comptes sur Polymarket qui passaient des ordres chaque minute, sans arrêt, jour et nuit, pour un total de 2 à 3 millions. Et quand la cote de M. Simion chutait brutalement, ils injectaient 30 à 40 000 dollars. C'était clairement un algorithme qui a opéré des transactions en fonction des baisses de la cote pour les amortir.
Comprenez par là, chaque pari devient donc une micro-prévision. La méthode employée reste opaque pour le grand public.
Et ces paris, est-ce qu'ils sont fiables ?
Non, répond Dominique Boulier, sociologue à Sciences Po Paris. Il met en garde contre cette confusion.
Il faut surtout qu'on dégonfle cette baudruche dès le départ et qu'on dise clairement que ça n'a rien à voir avec un sondage d'opinion qui a déjà des limites de validité, mais là, il n'y a absolument aucun rapport avec une mesure d'opinion et il n'y a aucun code de déontologie, aucun contrôle de quoi que ce soit. Donc, de toute façon, il faut à tout prix que les mass médias fassent le blackout sur ces affaires-là et ne considèrent ça comme des données totalement périphériques et non influentes, qui ne peuvent pas influencer le débat public.
Et alors, Miruna, comment ils peuvent influencer, par exemple, l'issue d'un vote ?
Les prédictions influencent les perceptions. Il y a un possible effet d'oracle. Les données de ces plateformes peuvent parfois être jugées plus fiables qu'au sondage ou expertise.
Parier sur Gaza, sur une catastrophe naturelle, sur la mort, ça pose aussi et surtout des problèmes éthiques, là.
Oui, parce qu'on rend ludique des événements qui cachent parfois des drames humains, des plateformes qui attirent surtout des jeunes hyper connectés, prêts à parier sur tout. Julien Pio.
Nous sommes en tant qu'humains, notamment chez les personnes les plus jeunes, parce que derrière ces plateformes qui sont extrêmement fortes en matière de connectivité, qui permettent d'avoir accès à beaucoup d'informations, il y a aussi des questions de monétisation du réel, et il y a aussi des questions finalement de gamification pour créer de l'engagement. Et cette gamification pour créer de l'engagement, peut-être qu'on s'apercevra dans quelques années, lorsqu'on aura avancé sur le plan scientifique, que ça crée aussi peut-être une sorte de déshumanisation.
Ouais, ces marchés prédictifs dépassent la simple question économique. Ils transforment l'incertitude en opportunité de profit. Résultat, interdiction en Belgique, Thaïlande et en Suisse, où ces plateformes sont considérées comme jeux d'argent illégaux.
Merci beaucoup pour ce sujet, Miruna Coca-Cosma. Ça non plus, ça ne vous aura certainement pas échappé. Une gifle, la gifle. Voici des jours des vies.
Dans les épisodes précédents.
Tu parles mal, tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle.
Je vis mal, mais ça te le dit pas.
Ah oui, pardon, j'oubliais, oui.
Tu me fais pas peur, hein, tu sais.
Cette scène mythique entre Isabelle Adjani et Lino Ventura dans le film La Gifle, se serait-elle rejouée dans l'avion qui emmenait Brigitte et Emmanuel Macron au Vietnam ?
Non, c'est plus compliqué que ça. Je vais t'expliquer.
Figurez-vous que le président français aurait été giflé par sa femme. Et l'image a été captée par les caméras d'une agence de presse. Et depuis hier matin, elle fait le tour du monde et devient quasiment une affaire d'État.
Des jours et des vies.
C'est la première fois que je prends une gifle devant tout le monde. Et c'est grâce à vous. Et vous l'avez fait exprès.
Mais pas du tout.
Vous l'avez fait exprès.
Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, à l'arrivée du couple présidentiel pour une visite officielle à Hanoï. L'avion vient d'atterrir, la porte s'ouvre, on voit Emmanuel Macron prêt à descendre et c'est à ce moment que la main de son épouse vient lui toucher violemment le visage. Visiblement décontenancé, puis un peu gêné, le président français tente de faire bonne figure avec un petit salut vers la foule de journalistes et d'officiels qui, il ne peut l'ignorer, hein, ont vu la scène et pensent, comme tout le monde à ce moment-là, que le président français s'est pris une gifle. Rapidement, les images ont commencé à tourner en boucle, surtout sur les chaînes d'infos françaises, à tel point que l'Élysée a dû publier un communiqué pour d'abord dire qu'il s'agissait d'images générées par une IA, alors qu'elles ont en réalité été tournées et diffusées par AP, une agence de presse reconnue. Face à cette évidence, un deuxième communiqué un peu plus tard a apporté une autre explication. Il ne s'agissait que d'une simple chamaillerie de couple et non pas d'une claque.
La ressemblance est tellement frappante qu'elle vous frappe comme une gifle.
Oui, et comme le tollé devenait persistant, Le président français en personne a été forcé d'apporter non pas un démenti, mais quelques explications.
Je vous dément rien du tout, je vous dis juste que nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Je suis surpris par cela et ça devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité, voilà.
Dis donc, l'amour, c'est pas toujours la fête. Hein.
Il est mondialement connu et reste pourtant un mystère.
He is the most famous artist in any point of art history.
Jusqu'au 29 juin à Beaulieu, Lausanne, plongez dans l'univers de l'un des génies de l'art urbain avec The Mystery of Banksy, A Genius Mind. Plus de 200 œuvres, graffitis, photos, sculptures et vidéos pour tout savoir sur Banksy, artiste peintre et graffeur né à Bristol. Véritable icône artistique. Plus d'informations sur mystery-banksy.ch.
Nobody has been that famous and yet invisible.
Retrouvez l'actualité culturelle dans Vertigo, du lundi au vendredi à 17h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Le temps sera assez ensoleillé et généralement sec aujourd'hui avec un faible risque de pluie le long des versants nord des Alpes jusqu'en début d'après-midi. Les températures actuellement entre 11 et 13 degrés, 21 cet après-midi.
L'heure avec RTS Première.
Il est 7h30. Le rappel de l'info, Miguel Hernandez.
Le canton de Fribourg a actualisé hier son plan d'action contre les violences domestiques. Une réaction au féminicide d'Epagny il y a plus d'un mois. Il propose 37 mesures avec une priorité mise notamment sur l'unité de médecine des violences et le renforcement des structures d'accueil. Un homme d'origine africaine est décédé dimanche soir dans les locaux de la police municipale de Lausanne après avoir fait un malaise. Il avait été arrêté au centre-ville pour des soupçons de trafic de stupéfiants. Le ministère public vaudois a ouvert une instruction pénale pour déterminer les circonstances précises de ce décès. 3 des 5 alpinistes retrouvés sans vie ce week-end au-dessus de Zermatt ont pu être identifiés. Le ministère public valaisan a indiqué qu'il s'agit de 2 hommes de 38 et 35 ans et d'une femme de 34 ans, tous ressortissants suisses. Selon les premières investigations, les 5 personnes avaient pour but de gravir le Rimfishorn. La parade de champions d'Angleterre du FC Liverpool a viré au drame hier. 27 personnes ont dû être hospitalisées après avoir été percutées par une voiture bélier. La police a interpellé le conducteur. Elle traite l'affaire comme un incident isolé et pas comme du terrorisme. Les principaux alliés occidentaux de l'Ukraine lèvent leurs restrictions sur la portée des armes fournies à Kiev. Le chancelier allemand Friedrich Merz a souligné hier que l'armée ukrainienne peut désormais se défendre et attaquer des positions militaires en Russie. Une décision jugée dangereuse par Moscou. Des milliers de nationalistes israéliens ont défilé hier dans les rues de Jérusalem. Ils célébraient l'occupation par Israël de la partie orientale de la ville. Le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Une provocation pour les Palestiniens et les pays arabes. Et au moins 52 personnes ont perdu la vie hier dans des bombardements israéliens à Gaza. Selon l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, le Hamas aurait refusé la nouvelle offre de cessez-le-feu proposée par les États-Unis. Et dans le même temps, le premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de ramener tous les otages retenus dans le territoire palestinien. Et en tennis, Stan Wawrinka pourrait bien avoir joué son dernier match à Roland-Garros, 10 ans après son titre conquis à Paris. Il a été battu hier au premier tour en 3-7 par le Britannique Jacob Fernley. Après la rencontre, le Vaudois a indiqué n'avoir aucune garantie de revenir l'an prochain.
À 7h33, cocaïne, crack, marijuana. Les autorités ne parviennent pas à endiguer le deal de rue. Un phénomène que notre invité suit de près depuis plusieurs années, Pietro Bugnon.
Bonjour Franck Zobel.
Bonjour.
Vous êtes co-responsable du secteur recherche et directeur adjoint chez Addiction Suisse. 30 ans, cela fait 30 ans que vous analysez le marché des drogues et sa partie visible. Le deal de rue qui dérange les passants, qui pose des questions de sécurité dans l'espace public, qui occupe la police, bien sûr. Avec le décès hier d'un homme d'origine africaine au poste de Lausanne. Il était suspecté de trafic de stupéfiants. Une enquête, un drame, alors que se tenait hier soir à Yverdon une table ronde sur la question du deal de rue. Vous y étiez. Canton, commune, chaîne pénale réunie et un constat. Les villes peinent à endiguer le problème du deal de rue malgré des trains de mesure annoncés un peu partout. Franck Zobel, une table ronde bienvenue, une table ronde de plus, une table ronde pour beurre. Qu'est-ce que vous diriez ce matin ?
Non, je pense qu'elles sont toujours bien, ces tables rondes. Évidemment, c'est pas une solution, mais c'est un moyen d'échanger sur les mesures qui peuvent être prises. On sait qu'il y a différentes communes dans le canton de Vaud qui sont en difficulté par rapport notamment à la question du deal de rue, mais aussi par rapport à la question des populations consommatrices de crack. Et puis d'essayer de trouver ensemble des solutions entre les acteurs de la sécurité, les acteurs de la santé publique, les acteurs des services sociaux, c'est toujours une bonne idée. C'est un peu comme ça qu'on a créé la politique des quatre piliers en Suisse. C'est en faisant ce genre de choses. Donc oui, c'est bien, c'est pas la fin, mais c'est un bon début.
Mais pas de solution miracle.
Il n'y a pas de solution miracle, ça on le sait. Personne n'en a trouvé, ni chez nous, ni à l'étranger. Nous, on a été peut-être le plus proche de trouver des bonnes solutions, justement avec cette politique des quatre piliers, en disant il faut être pragmatique, il faut s'asseoir ensemble, il faut trouver des solutions faisables et réalistes. Voilà, on essaie de le faire, ça ne marche pas toujours.
On a l'impression que le deal de rue s'intensifie, qu'il gagne des quartiers, des villes jusqu'ici épargnées. Est-ce que c'est le cas ?
C'est difficile à dire, parce que ça fait 25 ans qu'on a du deal de rue. Vous vous souvenez peut-être, il y avait B, il y avait d'autres endroits où on avait des situations comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un marché de la cocaïne foisonnant, probablement presque avec une suroffre. Et on a effectivement beaucoup, beaucoup de gens qui essayent de vendre cette drogue. Chez nous, encore une fois, dans les pays voisins, en Amérique latine, partout. Donc peut-être on en a un peu plus que dans le passé, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps.
Face à cela, les autorités ont renforcé l'automne dernier leur arsenal répressif. Plus grande présence dans la rue de la police, des opérations coup de poing, des interdictions de périmètre, intensification des renvois des trafiquants incarcérés. Est-ce que toutes ces mesures ont perturbé le marché ?
Alors la police, ce qu'elle fait surtout, c'est qu'elle dérange le marché. Hein. Elle le fait pas disparaître. Elle a jamais réussi à le faire disparaître. Il est là. Est-ce que ça a perturbé actuellement le deal de rue tel qu'on le voit ? Moi, j'ai pas d'indication de ça. Probablement, il y a des phases dans lesquelles il se réduit, puis il réaugmente. Mais si vous voulez, en tout cas, il est pas en train de disparaître.
Vous l'avez dit, la cocaïne, un marché gigantesque, une offre gigantesque. C'est même du jamais vu pour vous. N'est-ce pas ?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut suivre, si vous voulez, depuis l'Amérique latine, depuis les pays de production, jusque chez nous, une espèce d'augmentation de la production, une hausse de la pureté, une baisse des prix qui est historique.
Comment ça s'explique ?
Ça s'explique d'abord par la production, hein, qui a augmenté. Je crois que la dernière estimation de l'Office des Nations Unies sur la drogue et le crime, c'est 3000 tonnes produites en 2022. Ensuite, c'est des saisies énormes. On sait qu'aujourd'hui, avec la mondialisation des échanges aussi, les biens comme les drogues circulent beaucoup mieux qu'avant. Très facilement. Et puis vous avez une valeur ajoutée dans ce type de produit qui est le fait de la prohibition qui est absolument incroyable. On avait calculé ça en 2018 que si vous voulez la quantité de cocaïne qui était consommée par jour qu'on estimait consommée par jour dans le canton de Vaud, elle valait 1000 francs au départ la sortie du labo en Colombie, elle valait 150 000 francs. En rue à Lausanne. Et donc, vous avez un produit qui est dont la valeur est multipliée par 150. Et ça, vous allez toujours trouver des gens, surtout si vous traversez des pays pauvres ou comme ça, qui vont être d'accord de participer à des trafics comme ça.
Mais dans les rues, le prix de la cocaïne baisse.
Oui.
De combien ?
Alors, ce qu'on a vu ces dernières 6-7 années, donc on fait un monitorage du marché des stupéfiants dans le canton de Vaud. On est un des rares cantons à le faire. Ce qu'on a vu, c'est que la pureté de la cocaïne vendue en rue a doublé à peu près et le prix a diminué de moitié.
Donc, ça paraît paradoxal. Si le produit est plus pur, il devrait être plus cher, non ?
Ouais, absolument. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous avez une suroffre, qu'on ne coupe plus la cocaïne pour agrandir les volumes et qu'on casse les prix parce que on essaye d'avoir à tout prix les consommateurs. Donc le prix de la cocaïne aujourd'hui est à peu près 25 ou 30% le prix de la cocaïne pure de ce qu'il était il y a 6 ans. Alors qu'on a vécu une période avec beaucoup d'inflation. Donc on a vraiment un mouvement qui va à l'inverse de ce qu'on voit partout ailleurs.
Des prix qui baissent, donc davantage de consommateurs, on peut faire le lien ?
Pas comme ça, davantage de consommation, probablement les personnes les plus touchées par cette baisse des prix, cette hausse de la pureté, c'est les gens qui consomment déjà, qui vont consommer encore plus et qui sont encore plus en danger du fait de cette hyper-accessibilité de la cocaïne. Donc une dose de cocaïne actuellement dans les rues de Lausanne, c'est 10 francs, donc c'est rien du tout, hein, si vous voulez. Et donc là, on a vraiment des difficultés. Est-ce qu'il y a une augmentation plus générale dans la population ? Honnêtement, on manque de données pour dire ça, probablement, mais il faudrait qu'on ait vraiment des meilleures informations.
On a aussi beaucoup parlé du crack en hausse aussi, le constat, on l'a déjà fait à plusieurs reprises.
Oui, en hausse chez nous. En Suisse alémanique, ça fait très longtemps qu'ils le connaissent, le crack. Chez nous, ça a été plus une vague récente. Mais effectivement, le passage, si vous voulez, de la forme injectée ou sniffée de la cocaïne à la forme fumée, on l'a vu très clairement. C'est une sorte de mode qui s'est un peu répandue chez les consommateurs de drogue. Peut-être aussi du fait de cette hyper-accessibilité. Et puis, ça pose des problèmes assez sérieux. On voit quelques problèmes supplémentaires du fait des effets très rapides, très forts et très courts. De cette consommation de cocaïne.
Sur offre de cocaïne, le crack qui débarque, le fentanyl, comme aux États-Unis, ça aussi, c'est quelque chose qui va arriver ?
Non. Enfin, moi, je ne peux pas vous dire s'il ne va pas arriver. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 12 ans que je regarde s'il arrive et qu'il n'est pas arrivé. Donc, il n'est pas arrivé. Les États-Unis ont un marché des drogues très différent d'une autre. C'est d'autres organisations qui tiennent ce marché. Alors, ces drogues peuvent arriver, que ce soit le fentanyl ou des nitazènes, qui sont d'autres drogues qui sont très dangereuses aussi. Elles peuvent arriver, mais jusqu'ici, on n'a pas de marché organisé. Quand on fait des petites saisies de ces drogues-là, en règle générale, c'est que quelqu'un les a achetées sur Internet, plutôt dans les marchés anglo-saxons.
Le marché grossit et donc le deal de rue aussi. Est-ce que ce lien est valable ?
Le deal de rue, il répond surtout à la demande des consommateurs, si vous voulez, intensifs et un peu des consommateurs festifs. Mais aujourd'hui, la plupart des consommateurs festifs ont d'autres voies pour obtenir, ou récréatifs, si vous voulez, pour obtenir leur cocaïne. Donc, ça va être surtout fonction de cette population de consommateurs réguliers, souvent marginalisés. Donc, il a tendance à se développer avec cette population-là.
Alors que faire, c'est la question. On parle beaucoup de répression, on l'a dit, le canton de Vaud qui devait annoncer des mesures hier soir mais qui s'est en quelque sorte résigné. L'heure n'était pas aux annonces répressives après la mort de ce dealer. Répression, on vise les vendeurs mais peu les acheteurs au final, vous êtes d'accord avec ça ?
Non, en Suisse, on fait beaucoup de choses autour des acheteurs. On a des locaux de consommation, on a des traitements, on a une palette de traitements qui est presque unique au monde. Donc, on fait pas mal de choses.
Mais est-ce que la répression vise aussi les consommateurs ?
Ah, est-ce qu'elle vise aussi ? Oui, alors j'ai mal compris la question. Effectivement, dans le canton de Vaud, on arrête aussi des consommateurs, souvent aussi parce qu'ils consomment dans l'espace public. Donc, il y a des dénonciations pour ça. La question, là, elle est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on dénonce un consommateur ? Est-ce qu'on l'aide, comme on fait par exemple au Portugal, en disant c'est surtout un accès à l'offre d'aide quand on arrête quelqu'un, ou est-ce qu'on le punit et on entre dans une espèce de spirale, si vous voulez, des amendes non payées, etc. Et là, peut-être, on a encore des choses à améliorer.
Par exemple ?
D'aider directement les gens, de leur donner accès à des services, de ne pas les réprimer, de ne pas leur mettre des amendes, et puis de décriminaliser la consommation de drogue.
Décriminaliser, le mot est lâché, dépénaliser la consommation de drogue, c'est la question de fond qui demeure et qui doit être tranchée aujourd'hui, il y a urgence.
Alors, il y a deux questions. Il y en a une première qui est vraiment comment, avec cette politique des quatre piliers, on gère cette situation qu'on a devant les yeux. Puis on a une autre qui est très importante, c'est qu'on constate quand même l'échec de la politique drogue du XXe siècle, qui n'y arrive pas. On a aujourd'hui de plus en plus de violence dans les marchés, encore relativement peu chez nous, mais on en voit beaucoup dans certains pays européens, des pays voisins. Il va falloir qu'on fasse quelque chose et il va falloir qu'on invente des nouvelles pistes. Il n'y a pas de modèle, par exemple, pour la cocaïne, sur comment est-ce qu'on peut gérer cette drogue-là.
Il n'y a pas de bons exemples. Il n'y a pas de villes, de régions dans le monde qui ont réussi.
Avec la cocaïne, on n'a pas ça. Avec le cannabis, on a un débat aujourd'hui, vous le savez. On a une loi en préparation, on a les essais pilotes, comme ici Canel à Lausanne. Là, on est en train de développer des nouvelles approches. Pour la cocaïne, il faut qu'on s'asseye ensemble, qu'on réfléchisse et qu'on pense à des modèles pour une drogue qui est beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus puissante que le cannabis.
Mais le modèle des quatre piliers, il est encore pertinent face à la cocaïne ?
Il est pertinent pour répondre à la situation actuelle, pour essayer de trouver des solutions pragmatiques par rapport à ce qu'on a rencontré, comme on l'a fait il y a 40 ans avec l'héroïne. Par contre, il ne répond pas à la question de fond, c'est cette interdiction des drogues. Est-ce qu'elle marche ? Est-ce qu'on va pouvoir lui trouver une solution ? Et là, il faut vraiment qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse.
Mais quoi, par exemple ? Des lieux de consommation ?
Alors, on pourrait faire ça. Une des premières choses qu'on doit faire, c'est sortir les plus gros clients du marché noir. C'est ce qu'on avait fait à l'époque avec l'héroïne. On leur prescrivait de l'héroïne. Aujourd'hui, c'est plus difficile à prescrire de la cocaïne. Il faut aussi trouver un moyen de les sortir de là, peut-être en leur donnant de la cocaïne. Il faut aussi être ouvert à ces idées-là. Mais il faut réussir à sortir ces gens d'une sorte d'enfer dans lequel ils sont avec ces produits, comme je vous l'ai dit, hyper accessibles.
Et ça peut avoir un effet sur le deal de rue ?
Ça peut avoir... Si vous enlevez les meilleurs clients du deal de rue, vous allez avoir un effet sur ce marché.
Vous avez publié un ouvrage fin 2024, La Suisse et les drogues, chez Alphil, qui postule qu'il est possible de faire la paix avec les drogues plutôt que, je cite, de leur faire inlassablement une guerre perdue d'avance. On commence par quoi? C'est quoi la prochaine étape?
La première étape, c'est on gère la situation qu'on a maintenant. On trouve des solutions pour aider ces gens qui aujourd'hui sont dans la rue, ont des problèmes, consomment de manière intensive et dangereuse pour eux. On s'occupe de ça, on s'occupe du deal de rue et tout. Sur la question plus générale, faire la paix avec les drogues, ça veut dire admettre qu'il y a de la consommation de drogue chez nous, admettre que l'interdiction crée des marchés noirs dangereux, et donc s'asseoir et dire qu'est-ce qui peut être légalisé, comment, qu'est-ce qui peut être accessible, comment, est-ce qu'il y a des substances qui doivent être en pharmacie, d'autres qui peuvent être en magasin, comment est-ce qu'on fait avec ça, quelles règles on se fixe, quel réseau on met en place autour de ça.
Vous avez l'impression que la Suisse, elle est prête pour ce débat, pour affronter ces questions-là?
Moi, je pense plus que la plupart des autres pays, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'échec généralisé de tout le monde qui est une ouverture pour ce genre de réflexion.
Franck Zobel, vous êtes co-responsable du secteur recherche chez Addiction Suisse, directeur adjoint également de cette organisation. Vous étiez avec nous ce matin pour analyser ce marché des drogues avec ce phénomène donc du deal de rue et cette table ronde qui s'est penchée sur la question hier soir à Yverdon.
Et vous êtes avec nous ce matin, vous restez pour la rue de presse. Valérie Drouin, presse en gris vert aujourd'hui.
Les 50 jours du nouveau ministre de la Défense, Martin Pfister. Oui, il est venu devant la presse après 50 jours au lieu des 100 habituels devant la presse parce que le temps presse. Désolé. La probabilité d'une guerre en Europe est relativement grande, dit-il en grande interview dans les quotidiens CH Média. Il faut que l'armée suisse s'y prépare. Grande interview aussi dans Le Temps. Il insiste, nous devons nous préparer et vite. Pour conserver la paix, il faut impérativement se préparer à la guerre, version pfistérienne du latin si vis pacem parabellum. Martin Pfister, un homme pressé sur un terrain miné, estime l'éditorial de Yann Pochard, toujours dans Le Temps. Le magistrat et ses ambitions pourraient être rattrapées par les contingences politiques, avertit l'éditorialiste. Le Blick, pour sa part, résume 3 chantiers, beaucoup de mots, mais peu de concret.
Pour l'heure, la Suisse est entraînée dans une autre guerre et elle est commerciale.
Les tractations avec l'Union européenne sur les droits de douane redeviennent la priorité pour les États-Unis et la Suisse. Alors, 24 heures et la Tribune de Genève nous rappellent que Karine Keller-Souter et Guy Parmelin évoquaient une solution rapide. Après leur rencontre avec le secrétaire américain au Trésor, c'était début mai. On visait même alors les 2 prochaines semaines. On y est, rappellent les journaux, on y est et... rien. Les discussions prennent un peu plus de temps que prévu, explique le département fédéral de l'économie. Les discussions sont en cours et pendant qu'on discute, on lit dans ces mêmes journaux la recette de Donald Trump pour transformer sa fonction de président des États-Unis en or, tel un alchimiste de la politique. Un dîner à 300 000 dollars la place, tout récemment, pour un minuscule morceau de filet mignon avec un peu de flétan frit et de carottes trop cuites, lit-on. Il y a aussi les pièces de monnaie Trump, une sorte de crypto-monnaie qui a déjà rapporté 300 millions de dollars à l'empire économique du président, ou encore l'influence qu'il peut exercer sur le cours des crypto-monnaies via des décisions de politique monétaire. Au total, la fortune du président, selon le magazine Forbes, se monte à plus de 5 milliards de dollars. C'est 1 milliard de plus que l'année passée.
Technologie et amitié dans vos journaux aussi ce matin.
Mark Zuckerberg a détruit nos amitiés et l'intelligence artificielle doit les remplacer. Le titre qu'on lit ce matin dans le Sangaler Tagblatt, l'Argauer et la Luzerner Zeitung. Un utilisateur de Facebook, lit-on, a en moyenne 338 amis. Mais le drame du monde numérique, c'est qu'on ne peut aller manger avec quasiment aucun d'entre eux, poursuivent les journaux. Cette épidémie de solitude, comme ils l'appellent, est l'un des plus grands défis de notre époque, selon des études d'ailleurs. La solitude, elle rend non seulement malade physiquement et mentalement, mais elle rend également plus réceptif à l'extrémisme. Alors, que faire? Eh bien, remplacer les amis par des intelligences artificielles. Une tendance qui se développe, lit-on. Les amis robots sont toujours disponibles, n'ont pas de saut d'humeur, ne vous trahissent pas, mais c'est justement là que le bât blesse. Comme la technologie nous permet d'éviter les conversations difficiles, nous nous tournons toujours plus davantage vers elle et donc nous nous éloignons encore plus de nos semblables.
Sinon, il y a les vrais gens. Hein.
Aussi.
Une consternation bien réelle, elle, du côté de la Chaux-de-Fonds.
L'image fait mal aux yeux, dont Arc Info, mal aux yeux et aussi mal au cœur. À la Chaux-de-Fonds, il n'y a pas que les tempêtes qui défigurent les arbres, il y a aussi une entreprise de bûcheronnage. Entre 24 mètres et 30 arbres comme tranchés par la moitié sur le côté d'une rue. Alors que s'est-il passé? Eh bien, une entreprise de construction qui travaille au contournement routier de la ville a mandaté en sous-traitant pour tailler ces arbres sans demander la moindre autorisation à la ville. Normalement, il ne devait s'agir que de l'élagage de quelques branches pour permettre aux engins de chantier de passer. Irréparable, lit-on, ces dégâts. On ne connaît pas encore le coût de cet élagage illégal. Les premières estimations se montent à plusieurs milliers de francs par arbre.
Et pour terminer, Valérie, un peu d'héraldique.
Encore, allez-vous me dire. Oui, encore. Et encore dans la côte. Il y a quelques semaines, on parlait des problèmes de la commune de Beugnien qui voulait moderniser ses armoiries. Aujourd'hui, autre question sensible. En cas de fusion de communes, comment choisit-on le nouveau blason? Eh bien, c'est un art délicat, nous explique le journal. Elles doivent être lisibles, ces armoiries, et avoir une certaine unité. Ça ne doit pas être un catalogue disparate et hétéroclite, explique l'héraldiste Olivier de la Créta. Pour le projet de fusion évoqué ici, entre Gimel, Saint-Oyen et Saubras, c'est de gueule à deux grues d'argent, l'une contournée, entrelacée et hissant de pointe, le chef d'or chargé de trois étoiles de gueule, merveille du langage héraldique. Autrement dit, deux grues blanches au cou entrelacé qui regardent chacune d'un côté, fond rouge. En haut de l'écusson, une bande jaune avec trois étoiles rouges. Ce qui est moins joli que le langage héraldique.
Non, ça vous plaît, ça.
J'adore.
Merci beaucoup, Valérie Drou. Franck Zobel, directeur adjoint d'Addiction 6, vous êtes notre invité ce matin. Que dites-vous, je ne sais pas si c'est moins addictif, mais de prendre l'IA comme nouveaux amis vu la pénurie de solitude planétaire?
Alors nous, on suit la question des réseaux sociaux, des écrans depuis longtemps. Chaque fois qu'on fait une enquête chez les ados, on voit qu'il y a plus d'ados qui ont un usage problématique, c'est-à-dire où ça prend beaucoup trop de place dans leur vie. Et puis, si vous voulez, ce genre d'idée dans cet univers qui est absolument pas régulé, ben ça fait plutôt peur, parce que le design, on le sait, de toutes les applications qui aujourd'hui nous arrivent, des États-Unis notamment, sont des designs addictifs. C'est-à-dire, ils sont faits pour qu'on devienne de plus en plus passif et qu'on nous envoie de plus en plus de choses dans la figure. Alors, l'ami IA, il va faire ça, je pense. Il va faire pareil. Et puis, donc, ça s'inscrit très bien un peu dans le type de développement qu'on voit aujourd'hui. Et il va falloir réguler ça. Il va falloir, une fois que quelqu'un protège les jeunes, nous aussi, contre cette
omniprésence. Vous avez aussi des adultes accros qui font appel à vos services, pas que les jeunes, on imagine.
Oui, il y a aussi des adultes, quoi. Mais c'est vrai que ce sont les jeunes les plus touchés aujourd'hui par.
Ça prend quelle proportion dans votre activité, la dépendance aux écrans, aux réseaux?
Alors c'est encore relativement petit parce que c'est plutôt caché. Si vous voulez, aujourd'hui on est encore quand même très sur les sujets traditionnels, tabac, alcool, drogue illégale, jeu d'argent aussi, passablement. Mais c'est clairement quelque chose qui est en train de se développer. Et puis c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'en même temps les écrans, ils font partie de notre vie, ils sont tout le temps là, on en a besoin et tout. Donc de vraiment classer le pathologique du pas pathologique, c'est difficile.
On a l'impression qu'en matière d'addiction, vous aurez toujours une guerre de retard.
Ouais, oui.
C'est le propre de la lutte contre.
Par définition.
C'est un peu le propre de ce genre de situation. Tout à l'heure, vous me posiez la question pour l'avenir, pour les drogues. Là, on pourrait essayer d'en avoir une d'avance, une fois, par rapport au marché noir, c'est-à-dire de penser le futur. Mais en règle générale, on est souvent en retard, c'est vrai.
Cette guerre d'avance, si on comprend entre les lignes ce que vous disiez avant, ça passe vraiment clairement par faire sauter le tabou de l'interdiction. Moi, vous seriez pour lever toutes les interdictions?
Ah ben non, pas comme ça, quoi. D'accord. Si vous voulez, de réguler, c'est-à-dire au lieu d'avoir... Aujourd'hui, on est dans un système très simple, c'est un système à un coût, c'est l'interdiction. Ça marche pas, on a des marchés illégaux, on a de la consommation, on a différents phénomènes. Ce serait vraiment de réfléchir ces substances en fonction de leur dangerosité, de leur consommation, de ce que les gens y trouvent. Comment est-ce qu'on pourrait faire un peu d'engineering social, si vous voulez, pour réduire les problèmes qu'il y a dans notre société, pour gagner la maîtrise de la situation, parce que là, on l'a pas en ce moment.
La chronique politique, 7h53, Stéphane Delery, vous nous avez rejoint comme tous les mardis. Ce matin, vous explorez la notion d'inhibition.
L'inhibition, oui, j'ai découvert ce concept dans un sujet de la RTS. On est moins bête hein, quand on écoute la radio, vous le savez mieux que personne, chères auditrices, chers auditeurs. Un sujet de la RTS donc, qui expliquait que 40% des Suisses ont avoué avoir resquillé au moins une fois dans leur vie dans les transports publics. Hein, 40%, c'est bien plus que ceux qui ont essayé le cannabis, hein, se dit en passant. Pire, 25% ont même récidivé dans la resquie. Un choc, un fléau national, non, mais que fait la police? Les spécialistes expliquent la recrudescence du phénomène de resquie par le fait qu'on a un seuil d'inhibition assez bas dans ce domaine. Hein, voilà, c'est ce que disent les spécialistes. L'inhibition étant une action entreprise pour contrer une pulsion, une excitation, une tentation. En l'occurrence, le Suisse est, semble-t-il, incapable de lutter contre la tentation de voyager sans billet. Alors pour être précis, c'est surtout le Suisse-Allemand qui resquille, selon l'étude citée. Et ça ne m'étonne pas tellement, hein, déjà qu'ils ont un seuil d'inhibition au troisième sous-sol en matière de nourriture, lorsqu'il s'agit, par exemple, de mélanger la compote de pommes avec des cornettes et de la viande hachée.
Vous faites une fixette, Stéphane, vous parliez déjà de ça la semaine dernière.
C'est vrai, mais on n'insiste jamais assez sur les choses graves. Plus j'y pense, plus je me rends compte que les Suisses-Allemands, en fait, n'ont pas beaucoup d'inhibition. Par exemple, lorsqu'ils sont au spa. Et vas-y qu'on étale tout sans aucun scrupule dans l'espace wellness, hein. Pas d'inhibition en matière d'exhibition. À ce propos, il y a un gap culturel énorme entre alémaniques et romans en matière de nudité. On devrait même plutôt parler de Saunagraben, de Saunagraben, plutôt que de Röstigraben, expression que j'ai toujours trouvée nulle, parce qu'on aime les Röstis de part et d'autre de la frontière linguistique de la même manière. Par contre, pour ce qui est de se montrer le kiki, là, on est vachement différents. Mais je m'égare. On le voit à l'instant, cette histoire d'inhibition, c'est hyper important. Moi-même, je confronte mes pulsions humoristiques avec la bienséance qu'on doit avoir à la radio romande. Alors j'ai visiblement un seuil d'inhibition assez bas en matière de blagues grivoises. Mais je me soigne. Alors, mais bon, bref, au-delà de moi, l'inhibition, c'est surtout très très important en politique.
C'est-à-dire ?
Par exemple, eh bien, si on est conseiller d'État de droite en charge des finances dans un canton lambda. Je sais pas, moi, par hasard, disons le canton de Vaud, qu'on fait des cadeaux fiscaux durant 13 ans aux riches, que faire des cadeaux fiscaux, ça vous excite vraiment, vraiment beaucoup. Eh bien, c'est important que l'inhibition puisse refaire surface pour résister, vraiment. De même, si vous êtes ministre, je sais pas, moi, du seul canton où on utilise le mot ministre, le Jura, et qu'il vous prend une solide envie d'hurler sur un collaborateur, d'intimider un rival ou un journaliste, eh ben, vous pourrez toujours compter sur un mécanisme inhibiteur qui vous contiendra. De même, si vous êtes conseillère d'État écologiste ou en passe de lettres, il est à souhaiter que votre seuil d'inhibition ne soit pas trop bas face à cette tentation que vous pourriez avoir de prendre l'avion pour passer quelques jours de vacances dans une pétromonarchie, la fameuse pulsion de la tortue, comme on dit. Voilà. Donc, comme on peut voir, ce fameux seuil d'inhibition fonctionne particulièrement bien en politique. C'est censé aussi fonctionner pour le mensonge, le prélèvement illégal dans la caisse communale, l'épuration ethnique ou l'invasion du pays voisin. La pulsion doit être contenue. Voilà, c'est aussi ça, la chronique du mardi. Des conseils freudiens utiles pour celles et ceux qui nous dirigent.
Merci beaucoup, Stéphane. Franck Zobel, l'inhibition, est-ce que c'est assez périphérique, mais pas si éloigné que ça, à votre domaine d'activité? Vous avez l'impression qu'on est dans une société de plus en plus désinhibée, ou pas?
Ouais, c'est difficile. Alors d'abord, je me débrouille assez bien avec les billets de train, quoi.
J'ai resquillé pas.
Quoi, c'est ça, quoi. Ah bon. Étant d'origine allemande, sur le Saunagraben.
On vous demandera pas votre comportement.
C'est ça. Des inhibitions, ouais. Alors, moi, de ce que je vois dans les médias et tout ça, oui, il y a de plus en plus de désinhibitions. Et puis moi, sur le sujet sur lequel je travaille, il y en a pas mal, quoi. Alors, des inhibitions. Alors, des gens qui viennent, puis qui s'asseyent, puis qui disent, moi, je ne ferai aucun compromis avec la drogue et qui n'ont strictement rien à proposer. Ça, j'en rencontre très régulièrement et puis qui se sentent absolument à l'aise de venir avec des positions comme ça.
Donc ceux autour de la table sont censés trouver le compromis avec tous les autres.
C'est ça. C'est difficile de trouver un compromis.
Effectivement,
comme ça.
On l'entend bien. Mathieu Wildaber est à vos côtés. On y va, Mathieu.
Parlons peu, parlons bien. Avec UBS Helvetica, le réseau de bénévoles d'UBS, ubs-helvetica.ch.
On en a parlé toute la semaine dernière, Mathieu, on continue d'en parler. Le silence d'Ignacio Cassis sur Gaza. Eh bien, notre ministre des Affaires étrangères s'est enfin exprimé, c'était ce week-end.
Et je ne vais pas revenir justement sur ce silence, car beaucoup en ont déjà parlé. Ce qui m'intéresse, c'est cette déclaration faite par le conseiller fédéral Ignacio Cassis. Enfin, déclaration... Appelons un chat, Valérie. Il ne s'agissait pas tant d'une déclaration publique, mais plutôt d'un rappel de la position du Conseil fédéral concernant Gaza. Position du Conseil fédéral transmis 2 jours auparavant dans un communiqué. Même ses partisans étaient un peu empruntés, ils ne pouvaient féliciter que l'exercice de forme d'Ignacio Cassis, tant le fond n'apportait que peu.
Qu'est-ce qui vous a déplu, tant déplu dans cette prise de parole, Mathieu ?
Il faut que je vous parle d'incarnation. Dans la vidéo de cette déclaration, vidéo grandement relayée, Monsieur Cassis n'a jamais parlé en « je ». Il prononce plusieurs fois le « nous ». Il prononce plusieurs fois le « on », il prononce plusieurs fois le « il » pour parler du Conseil fédéral. Mais jamais de « je », un « je », celui du chef du département fédéral des affaires étrangères. C'est pour moi une erreur de communication, car le message en devient alors totalement désincarné. Cette erreur ne date d'ailleurs pas d'hier. Le frère de Cicéron, déjà, dans un manuel de politique, avertissait que les électeurs votent et s'engagent pour des visages et non pas pour des entités, des partis ou des départements. Alors, je terminerai ce petit message en m'adressant à vous directement, monsieur le conseiller fédéral. Si je suis alerte quant aux défis liés à la rhétorique politique, je suis également capable de savoir que l'incarnation est un excellent moyen de faire passer un message.
Ben voilà, message passé. Merci Mathieu.
Avec plaisir.
Parlons peu, parlons bien. Avec UBS Helvetica, le réseau de bénévoles d'UBS, ubs-helvetica.ch.
Franck Zabel, à propos de l'incarnation, juste encore un mot là-dessus. Est-ce qu'on veille à comment on incarne le discours de prévention, le message politique? J'imagine que oui, il y a une manière très précise d'atteindre le but.
J'ai pas compris la question.
Pardon. Non, la manière quand vous voulez faire passer un message de prévention, vous adressez pour endiguer ce qu'on arrive pour l'instant pas à faire. Est-ce que le souci de comment on incarne la chose pour que le message passe est central?
Ouais, c'est très important. Et puis le message lui-même est très important aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut faire des affiches pour dire aux gens de pas prendre des drogues et tout ça. Ça marche pas du tout. Il faut faire d'autres choses. Il faut renforcer plutôt les compétences sociales des jeunes. Il faut faire ça en faisant beaucoup de fois à l'école différentes choses. Donc oui, c'est très important de comment on incarne le message et de ce qu'on fait.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Franck Zabel, directeur adjoint d'Addiction Suisse, co-responsable du secteur recherche. Très bonne journée à vous. Merci.
Merci.
Et puis on vous rappelle notre matinale spéciale Gaza et après. C'est demain de 7h à 8h30.